tout simplement parce que je fais une série et que aujourd'hui c'est la fin de la série. Formidable. Il y a des séries qui durent année après année. Moi, je termine la série sur la louange aujourd'hui. Je pense qu'il était important de faire cette série. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire sur la louange, mais en même temps, je pense qu'il était important, je pense, d'en parler, de regarder ce que la Bible a à nous dire par rapport à la louange. Alors, nous avons observé quelques sujets sur la louange au travers de la parole de Dieu. Nous avons regardé quelques mots importants comme adorer, exalter, célébrer ou glorifier. Mais la Bible regorge un tapis, je dirais, immense par rapport à la louange. On n'a pas regardé le mot bénir, louer, magnifier, mais on pourrait regarder des tas d'histoires dans la Bible où nous voyons que des hommes et des femmes ont pris du temps pour louer et adorer le Seigneur. La dernière fois, nous avons vu qu'est-ce que la louange, avec quelques principes dans la Bible sur la louange. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble pourquoi l'adoration est-elle importante pour nous en tant que chrétiens. Et je voudrais vous interroger, en tout cas, vous donner plusieurs raisons pourquoi il est si important en tant que chrétien de louer le Seigneur. Tout d'abord, il est important pour vous de louer le Seigneur en tant qu'individu. Vous devez apprendre ici-bas à louer le Seigneur en tant qu'individu. On ne sait pas bien louer le Seigneur parfois. On nous demande parfois de mettre notre téléphone en mode avion pour éviter les intersections entre Dieu et nous, aujourd'hui au 21e siècle. Je me dis que c'est quand même important de parler et de dire pourquoi l'adoration est si importante pour nous en tant qu'individus. Pourquoi l'adoration est-elle si importante pour nous en tant que famille? Famille de Dieu, c'est-à-dire que dans votre foyer, vous devez prendre du temps quand cela est possible. C'est pas toujours facile de prendre du temps avec sa famille, mais de prendre du temps à louer le Seigneur, à compter les bienfaits. Il y a beaucoup de familles qui ne peuvent pas le faire, parce que le mari, parce que l'épouse n'est pas dans le Seigneur. Et je me dis bien souvent, quel privilège pour certaines familles qui sont en Jésus-Christ et qui passent à côté de cette chose si importante. Imaginez que dans nos églises, au 21e siècle, vous veniez et que pendant une heure, voire deux heures, il y ait un prédicateur qui vous prêche la parole de Dieu et qu'on mettrait de côté cette partie si importante de la louange. Vous allez peut-être me faire plaisir une fois ou deux, mais au bout de la troisième, vous allez dire, Nicolas, tu as oublié. On m'a tellement dit souvent, Nicolas, tu as oublié. Tu as oublié une annonce, tu as oublié ceci, tu as oublié cela. Et en même temps, il est important aussi en tant qu'Église de prendre du temps ensemble de louer le Seigneur. En tant qu'individu, en tant que famille de Dieu, et en tant qu'Église, il est important de louer et d'adorer le Seigneur. Alors, cette raison, j'ai choisi le chiffre parfait. J'aurais pu en mettre plusieurs de raisons. J'ai pris sept raisons pour louer, des raisons en tout cas importantes pour louer le Seigneur. La première raison, parce que Dieu veut la première place. Vous pouvez dire ce que vous voulez, chez vous, à la maison. Vous pouvez manifester que vous êtes le premier à la maison. Mais dans l'Église, Dieu veut être servi le premier. Regardez dès le démarrage de la Bible. Si vous connaissez votre Bible, Quel est le premier verset que nous trouvons dans la Bible? Genèse chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu. L'être humain aurait aimé que dans la Bible il y ait marqué « Au commencement, l'homme ». Ça aurait tout changé, hein? Mais dans la Bible, nous voyons que le Seigneur veut la primauté, veut la première place. Et j'aime beaucoup ce verset, parce que cela nous rappelle que le Seigneur veut la première place dans notre vie. Il veut la première place en tant qu'individu, il veut la première place en tant que famille. Dans votre famille, le Seigneur veut la première place, et il veut la première place dans l'église locale. Regardez un petit peu plus loin, Exode chapitre 20. Le Seigneur va donner 10 commandements. Les 4 premiers commandements sont pour Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Premier commandement. Tu ne feras point d'image taillée, ni de la présentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Troisième commandement. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Quatrième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne le sera point puni, celui qui prendra ce nom en vain. Quatre commandements seulement pour Dieu. Vient ensuite nos devoirs vis-à-vis de notre vie, notre responsabilité, nos obligations vis-à-vis de nos parents et de notre prochain. Mais Dieu a la première place. Dieu est un Dieu jaloux. L'être humain est un Dieu jaloux. Mais ça fait partie des défauts chez l'être humain, pas chez Dieu. Parce que chez Dieu, cela désigne le fait qu'il veut recevoir l'honneur qu'il mérite. Il veut avoir la première place. L'apôtre Paul dira cela aussi de Jésus un petit peu plus tard dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 18. Qu'en toute chose, il tienne lui, donc en parlant de Jésus, la première place. La première leçon que je voudrais vous donner ce matin, est-ce que Dieu a la première place dans votre vie? Est-ce que Dieu a la première place dans votre famille? Est-ce que Dieu a la première place dans l'Église? Deuxième raison, qui est importante pour louer et adorer notre Seigneur, c'est parce que le Seigneur a donné la priorité à l'adoration. Vous connaissez ce verset, Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est-à-dire que le Seigneur remet en place ce qui est prioritaire. Et la priorité, c'est de chercher premièrement le royaume et sa justice. Nous sommes comme cela, n'est-ce pas? Nous sommes tellement égoïstes que parfois on oublie cette priorité qui doit nous préoccuper dans notre vie de tous les jours. Et pourtant, le Seigneur nous demande la priorité dans l'adoration. Lui d'abord, moi ensuite. Lui d'abord, moi ensuite. Le Notre Père, que vous connaissez, il est enseigné dans l'Évangile de Matthieu. Ton nom, ton règne, ta volonté. On a besoin d'être à l'écoute, n'est-ce pas, de la parole. Ton nom, ton règne, ta volonté. Seigneur, que ta volonté soit faite. Pas la mienne, mais la tienne. Ça nous fait dresser les poils, n'est-ce pas, quand on parle comme cela. Ta volonté, Seigneur, pas la mienne. Je disais hier à Jonathan que quand le Seigneur m'a appelé à venir à Marolles-sur-Seine, dans la Bible, il n'y a pas Marolles-sur-Seine. J'ai jamais vu le nom de Marolles-sur-Seine, enfin le nom de la ville Marolles-sur-Seine. Et pourtant, le Seigneur a dirigé pour que je vienne à Marolles-sur-Seine. J'ai laissé le sud de la France. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai laissé le Var, dans le sud. J'ai habité pendant 33 années. Et le Seigneur a dirigé pour que je vienne à Marolles-sur-Seine. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai dit, priorité à Dieu, que ta volonté soit faite. Seigneur, tu veux vraiment que j'aille à Marolles-sur-Seine? Tu es sûr, Seigneur? Parce que ici, dans le sud, c'est beau, hein? Il y a le soleil, il y a la mer. Enfin, je crois que le soleil, depuis quelque temps, on est servi, hein? Si ça continue, on va avoir plus de soleil ici que dans le sud de la France. Mais en attendant, dans mon esprit, c'était priorité au Seigneur. Que ta volonté soit faite. C'est important, n'est-ce pas, que ta volonté soit faite. Parce que bien souvent, nous oublions cela dans notre vie, aussi dans notre quotidien en tant qu'individu, en tant que famille. En tant qu'Église, nous oublions les priorités. J'ai toujours aimé l'histoire de cette personne, cette femme, qui va venir, qui, certains pensent que c'est Marie de Béthanie, dans Jean chapitre 12, verset 3. Elle brisa à un moment donné un vase d'albâtre qui contenait un parfum au grand prix. Et Jésus va reprendre ce qui était indigné. Vous connaissez ce texte? À un moment donné, à quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu le vendre pour 300 deniers, donc un salaire complet de l'époque, d'une année. Il pensait que, en vendant ce parfum, qui à leurs yeux était quelque chose d'indigne, ce qu'il était en train d'être fait par cette femme, et Jésus va les reprendre en leur disant: je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Les hommes l'ont critiqué. Dieu l'a loué. Ce que vous faites pour Dieu est plus important que ce que le monde peut dire de vous. Alors ne venez pas déverser Chanel ou je sais pas quoi dans cette église, ça sert strictement à rien. Gardez votre argent. Il y a, paraît-il, un parfum qui s'appelle maintenant Gabrielle. Je vais essayer de voir si je peux faire un petit effort pour elle. Mais pour vous montrer quand même que bien souvent, nos priorités ne sont pas celles de Dieu. Et nous aimons bien critiquer, nous aimons bien montrer du doigt certaines choses. On est indigné parfois vis-à-vis de certaines choses qui se font. Et Dieu dit, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on se souviendra de ce que cette femme a fait à un moment donné. Alors, est-ce que le Seigneur a la priorité dans votre vie? Ça, c'est la deuxième question. Est-ce que le Seigneur à la priorité dans votre vie? Troisième raison, parce que Dieu lui-même est l'objet de toute l'adoration. La personne du Seigneur doit avoir la priorité autant dans l'œuvre que dans votre vie personnelle. Le Seigneur veut la première place dans l'adoration. Il veut d'abord être servi le premier. Je voudrais vous montrer un exemple. Quand il a choisi ses 12 disciples, d'abord, il a pris les 12, d'abord, il les a fait venir auprès de lui, et ensuite, il leur a dit, maintenant, vous pouvez aller prêcher l'évangile dans le monde. Mais d'abord, prendre du temps avec le Seigneur, et ensuite, vous pouvez aller, par la suite, prêcher la bonne nouvelle. Et cela me fait penser que le ministère, le temps que nous passons avec Dieu, peut paraître parfois, je dirais, insignifiant ou minoritaire. Mais le Seigneur veut la priorité et soit l'objet de toute votre adoration. Et c'est important de le dire. Est-ce que Jésus-Christ est l'objet de toute votre adoration ce matin? Quatrième raison, parce que l'adoration s'adresse directement à Dieu. Le chrétien peut servir Dieu de bien des manières. On peut servir le Seigneur en annonçant l'Évangile. On peut servir le Seigneur en aidant notre prochain. On peut servir le Seigneur en envoyant un missionnaire à l'étranger. On peut servir le Seigneur par l'offrande. On peut servir le Seigneur de toutes sortes de façons. Mais l'adoration s'adresse directement à Dieu. Et c'est quelque chose qui doit être important. Vous connaissez la Bible, vous la lisez comme moi, peut-être régulièrement, mais vous avez dans la parole de Dieu des, ce qu'on appelle des doxologies. Je voudrais juste vous rappeler ce que c'est une doxologie. La doxologie, c'est du grec, c'est doxa, d'abord gloire, et logos qui signifie parole. Donc aujourd'hui, une doxologie, c'est des textes que certaines églises prennent et citent comme une certaine liturgie. Eh bien, dans la Bible, vous avez des doxologies que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous pourrions nous en inspirer. Quand on passe un temps dans la louange et dans l'adoration. Je voudrais vous en montrer qu'une seule. Il y en a des dizaines dans le Nouveau Testament. Je voudrais vous en donner une. Jude, verset 25, qui dit « À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit la gloire, la majesté, la force et puissance dès avant tous les temps et maintenant dans tous les siècles. Amen. » Ça fait partie d'une doxologie. Ça fait partie du fait que nous sommes en train de mettre le Seigneur à la première place dans la parole de Dieu. Et on peut s'en inspirer. Je ne suis pas contre le fait que de temps en temps, au moment de louange, une personne cite un texte comme cela et puis loue le Seigneur par la suite. Il y a des tas de beaux versets, des tas de passages dans la parole de Dieu qui pourraient être mis en avant dans la parole de Dieu, dans la vie de l'Église, tout simplement, dans votre vie personnellement et ensuite dans votre vie de famille. Le Seigneur doit avoir la primauté. C'est lui qui doit être le premier. Cinquième raison, parce que la Bible donne la priorité à l'adoration. Vous connaissez la Bible, vous la lisez. Les cinq premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Cinq livres, et quand on regarde sur ces cinq livres, deux chapitres pour la création. Tout le reste fait partie de la louange et de l'adoration. Quand vous regardez dans son résumé, je vais résumer ces cinq chapitres. Genèse, c'est l'homme quand il tombe dans le péché. J'ai résumé. Il y a bien plus que cela dans la Genèse. Exode, c'est le peuple de Dieu qui sort de l'esclavage. Lévitique, c'est le peuple de Dieu qui entre dans la présence de Dieu pour l'adorer. Vous avez toutes sortes de commandements, d'ordres de la part de Dieu. Il va mettre plusieurs chapitres à expliquer cela. Nombre, c'est le peuple de Dieu qui passe par le désert. Et Deutéronome, c'est le peuple de Dieu qui arrive dans la terre promise. Avant la terre promise, Dieu a donné des ordonnances, des règles à la nation d'Israël. Dieu nous a donné aussi des priorités, des règles, des ordonnances dans sa parole. Nous devons les mettre, bien sûr, en pratique dans notre vie de tous les jours, ne pas passer à côté de ce qu'il a à nous dire dans le quotidien, dans notre famille et aussi dans notre église locale. Le Seigneur a placé des règles, des ordonnances. Nous devons bien sûr les mettre en pratique dans notre quotidien. Sixième raison, et c'est l'avant-dernière parce que la vraie adoration ne vient que des croyants. Alors j'ai cherché un peu durant cette semaine. Est-ce qu'il n'y avait que les croyants qui louaient le Seigneur? Le Seigneur s'est servi parfois de païens. Je pèse mes mots. De personnes qui étaient sans Dieu. Et pourtant, il les a appelés à un moment donné Nebuchadnezzar. Il a appelé mon serviteur. Jérémie chapitre 43, verset 10. Parce que Dieu l'a appelé cet homme pour qu'il vienne châtier un peu le peuple. C'est dingue, n'est-ce pas, de la part de Dieu de dire de ce païen, c'est mon serviteur, parce que je veux un peu qu'il reprenne mon peuple. Il va appeler Cyrus, le roi païen. Ésaïe 44, verset 28. Il est mon berger. Vous savez pourquoi? Parce que Cyrus, à un moment donné, va être un instrument choisi par Dieu pour faire remonter Israël de la captivité. Oui, Dieu s'est servi d'hommes païens et Dieu a été à la première place parce que parfois le Seigneur se sert de certaines situations ou de certains faits, de certaines personnes pour manifester parfois le châtiment, mais parfois aussi la reconnaissance. Septième et dernière raison, parce que l'adoration durera éternellement. Alors je l'ai déjà dit, mais c'est le dernier point pour ce matin. Ici, vous savez, je le crois, tout est imparfait. On aimerait que ce soit tout parfait ici-bas sur cette terre. Mais je le crois de plus en plus que tout est imparfait. Dans le ciel, on n'annoncera plus l'évangile. On n'aura plus à se décarcasser, à aller voir un païen ou un sans-Dieu, de lui dire que Jésus l'aime. On n'aura plus à le dire ça dans le ciel. La prière de l'intercession pour les personnes qui passent par des moments difficiles, dans le ciel, on ne fera plus ce genre de prière. On n'aura plus besoin non plus d'exhorter. Je n'aurai plus besoin d'exhorter dans le ciel parce que je serai dans la présence avec mon Sauveur durant l'éternité. Les épreuves auront cessé dans le ciel. La Bible nous dit qu'il n'y aura plus ni pleurs ni larmes. J'ai hâte d'être dans la présence du Seigneur. J'ai hâte d'être dans la présence du Seigneur parce que dans le ciel, j'aurai plus besoin de mettre mon mouchoir dans la poche. Parce que si je pleure, j'ai besoin d'un mouchoir pour me sécher les larmes. Dans le ciel, il n'y aura plus besoin de cela parce que le Seigneur nous aura fait atteindre notre port de la délivrance. Mais en attendant, le Seigneur veut que nous prenions conscience que l'adoration va durer toute l'éternité et que nous devons commencer déjà ici-bas à le faire. Même si c'est imparfait, même si parfois vous avez un chat dans la gorge, même si demain vous allez arriver dans l'église enrhumé, c'est pas grave. C'est le Seigneur voit dans le cœur. Et c'est ce qui est le plus important. Même si parfois on n'est pas en harmonie dans la louange et dans l'adoration. Je vous rassure, ce matin on était dans l'harmonie. Que ce soit comme ça tous les dimanches matins. Moi, je vous invite à enlever vos chats de la gorge tous les dimanches matins et à louer le Seigneur comme nous l'avons fait ce matin. Dieu veut que nous soyons en communion avec lui. C'est important, cet aspect de l'adoration. C'est important dans votre vie individuelle. Cet aspect de l'adoration. Le Seigneur le premier, ensuite viens moi par la suite. À votre avis, pourquoi les églises ou les pasteurs encouragent les chrétiens à lire la Bible le matin? Ben parce que on sait très bien que quand on va dans la vie de tous les jours, c'est difficile après de prendre du temps dans la vie de tous les jours. Alors, soyons en communion et en partage avec le Seigneur dès le départ, et ensuite, eh bien, nous pourrons prendre le temps pour le reste, parce que le Seigneur aura été mis à la première place. J'ai reçu cette affiche que je vais afficher à l'entrée du SAS. Pour vous dire tout, c'est Christiane Nestorine qui me l'a envoyée. Elle a trouvé ça avec un peu d'humour. J'avoue personnellement que j'ai beaucoup d'humour et que j'ai apprécié cette affiche, donc je la mettrai à l'entrée. J'espère que demain, il n'y aura plus de président pour vous dire « Mettez votre téléphone en mode avion ». Ça se fait parfois dans certaines églises. J'espère que ça ne se fera plus jamais ici, dans l'église de Marolles-sur-Seine. Et voici ce que l'affiche dit. « Il est possible qu'en entrant dans cette église, vous entendiez l'appel de Dieu. Par contre, il est peu probable qu'il vous contacte par téléphone. » Ça a de l'humour. Dieu ne m'a jamais parlé au travers de mon portable. Par contre, Dieu prend du temps quand j'éteins mon portable, quand je le mets en mode avion, quand il n'y a plus d'intercession entre lui et moi, Dieu va prendre du temps pour me parler. Alors que nous puissions prendre conscience que le temps de la louange est un temps important, autant individuellement, dans la famille, dans votre famille, si le Seigneur le permet, c'est quelque chose d'important de prendre du temps, de dire à vos enfants, allez, venez autour de cette table, à votre mari ou à votre femme, venez autour de cette table et louons le Seigneur. Manifestons de la bienveillance, manifestons les bienfaits de Dieu autour de cette table. Et il est important aussi, en tant qu'Église, de louer et d'adorer le Seigneur. Dieu veut la primauté, la première place. J'en ai fini avec la louange et l'adoration. Être en communion avec Dieu, c'est être dans l'adoration intime avec Dieu. Alors que nous puissions prendre conscience dans nos vies de tous les jours que le temps que nous passons avec le Seigneur, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Amen. Amen. Je vais terminer par la prière. Seigneur, je veux te remercier pour ce temps. Ce temps où nous avons voulu ce matin te mettre à la première place. Et merci Seigneur parce que dès le début de ce culte, nous t'avons placé à la première place. Nous voulons le continuer, après le culte, à te placer à la première place dans notre famille, dans nos familles réciproques, là où c'est que tu nous as placés, Seigneur, et même en tant qu'individu, que nous n'oublions pas, à partir de lundi matin, quand nous partirons dans notre lieu de travail, peut-être, ou tout simplement là où c'est que tu nous as placés, que tu veux la primauté. Alors Seigneur, enseigne-nous dans ce domaine et que tu sois tout le premier dans nos vies. À toi en revienne toute la gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.